Voilà, bonjour frères et sœurs, chers amis. Donc nous bénissons notre Seigneur pour sa parole que nous avons déjà lue ce matin, sa parole qui demeure éternellement, comme il est dit dans ce texte de Pierre que nous avons lu. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole encore dans ce texte de Luc chapitre 9, versets 37 à 45 que nous allons voir aujourd'hui. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Manifester la grandeur de Dieu ». Nous encourager à le faire, puisque le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a fait lorsqu'il est venu sur terre, et il attendait cela aussi de ses disciples. Et donc, nous allons lire les textes de Luc chapitre 9, versets 37 à 45. Avant ce passage, les versets précédents que nous avons vus la fois dernière, il était parlé de la transfiguration de Jésus. Il a permis à trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, d'être avec lui sur cette montagne où son visage a été changé, ses vêtements aussi, et les disciples l'ont vu avec Moïse et Élie parlant de son départ futur. Et nous étions encouragés là aussi à écouter notre Seigneur. C'est ce que le Père demande lorsqu'il est dit que de la nuée sortit une voix qui dit: celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. L'écouter parce que oui, notre Seigneur a quitté sa gloire et il s'est humilié en devenant homme et il est allé jusqu'à la croix. Et donc le texte au verset 37 nous dit que le lendemain, donc de la transfiguration, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria: « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. « J'ai prié tes disciples de le chasser. » Et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Et comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples: pour vous, écoutez ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Amen. Alors, il est dit qu'au verset 43, tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Et le Seigneur attendait de ses disciples qu'ils manifestent la grandeur de Dieu en agissant favorablement pour cet enfant qui était possédé d'un esprit impur. Et donc, le texte nous dit qu'il descend donc de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et il retrouve les neuf autres disciples qu'il avait donc laissés là, en train de discuter avec les scribes, les docteurs de la loi, et ça on le voit dans Marc chapitre 9, verset 14, et une grande foule qui les entourait. Et donc cet homme amena son fils unique, qui était donc possédé d'un esprit impur, auprès de ses 9 disciples pour qu'il guérisse son enfant. Mais malheureusement, à sa grande surprise, les disciples n'ont pas pu le faire, soulignant ainsi donc l'impuissance des disciples, leur incapacité à délivrer son enfant donc de cet esprit impur. Cet homme est complètement déçu parce que les disciples n'ont pas pu guérir son fils. Alors on peut se poser la question, pourquoi cette impuissance des disciples ? Cet homme s'attendait à ce que les disciples guérissent son fils, mais ils n'ont pas pu. « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. » Donc il s'attendait à ce que les disciples puissent le faire. Alors le Seigneur reprend sévèrement ses disciples en leur disant au verset 41, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ? » Le Seigneur Jésus est exacerbé parce que pour lui, c'est le genre de choses que ses disciples devaient être capables de faire. Il leur avait déjà précédemment montré et donné même le pouvoir de chasser les démons lorsqu'il les avait envoyés deux à deux dans les villes. Et ça, on le voit dans, par exemple dans Marc chapitre 6, verset 7. Il dit, « Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Après, il est dit au verset 12-13 qu'ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » Au chapitre 9, verset 6, Luc nous dit qu'ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Donc les disciples avaient déjà eu les occasions où ils ont pu opérer des guérisons auprès des personnes qui étaient malades ou possédées. La question c'est s'ils ont pu chasser le démon, beaucoup de démons auparavant, pourquoi ont-ils échoué cette fois-ci? Et là, le Seigneur Jésus met en cause leur incrédulité. Le Seigneur Jésus dit « race incrédule et perverse ». Lorsqu'il les avait envoyés avec les instructions bien précises de partir, de ne pas prendre de vêtements, de ne pas s'inquiéter pour la nourriture, les disciples sont partis avec cette confiance que Dieu allait pourvoir à leurs besoins et allait accomplir à travers eux ce qu'il avait dit. Ils avaient foi en la puissance de Jésus et ils ont pu opérer divers miracles. Ils étaient dans la joie et lorsqu'ils reviennent, ils sont dans la joie par rapport à tout ce qu'ils ont pu opérer. Et là, malheureusement, le Seigneur est parti avec Pierre, Jacques et Jean. Les 9 autres sont restés là. Et eux, ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Et le Seigneur leur dit que c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'ont pas eu la foi comme la foi de cet homme qui dit dans Marc chapitre 9 qu'il faisait un miracle en mon nom. Il dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'en avons empêché. » Ça c'est l'un des disciples qui disait ça à Jésus dans Marc chapitre 9 verset 38 et 39. Et le Seigneur dit « Ne l'en empêchez pas car il n'en est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt parler mal de moi. » Et c'est peut-être là la clé. Faire le miracle au nom de Jésus. Et c'est en cela que réside la puissance. Et les disciples là, ils ont échoué parce que peut-être qu'ils ont cru que c'était par leur propre force, leur propre capacité qu'ils pouvaient délivrer cet enfant. Ils ont peut-être oublié que c'était au nom de Jésus et que c'est la puissance de Jésus-Christ qui allait le faire. Un peu plus tard, le Seigneur Jésus va envoyer les 70 autres disciples pour là aussi guérir les malades, etc. Et ils vont revenir dans Luc chapitre 10, verset 17. Il dit que les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Donc, c'était pas la première fois. Et après d'autres occasions, les disciples reviennent et les démons leur sont soumis au nom du Seigneur Jésus. Vous vous souvenez de Pierre dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il y avait donc ce boiteux qui faisait donc de l'aumône. Et Pierre qui dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme va se lever et se mettre à marcher. Au nom de Jésus. Puisque Pierre savait très bien que ce n'était pas par sa propre puissance qu'il pouvait faire que cet homme se lève, mais c'était seulement la puissance de Jésus-Christ qui pouvait le faire. Alors, dans notre texte, on voit que l'incapacité des disciples à délivrer cet enfant de cet esprit démoniaque vient du fait de leur incrédulité, de leur manque de foi. Oubliez que c'est par la puissance de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils pouvaient le faire. Ils avaient certainement mis leur foi en eux-mêmes, croyant que c'était eux-mêmes qui avaient le pouvoir de faire quoi que ce soit. Et donc le Seigneur leur dit que c'est à cause de votre incrédulité. Puisque les disciples, ils vont retrouver Jésus après, et ça on le voit dans Matthieu chapitre 17, versets 19 à 20, et ils vont poser la question à Jésus. Ils vont dire, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et le Seigneur dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit le Seigneur. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est à cause de votre incrédulité. L'autre raison pour laquelle les disciples ont échoué, et là on voit toute l'impuissance des disciples, et ça on le voit dans d'autres textes, par exemple dans Marc chapitre 9 verset 28 à 29, dans Matthieu chapitre 17 verset 21, où les évangélistes racontent cette histoire. On voit que, je note que c'est à cause de la mauvaise méthode utilisée. Les disciples, ils demandent à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Et le Seigneur répond que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Et donc, là, le texte ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils n'ont pas utilisé la bonne méthode. Et le Seigneur leur dit que cette espèce-là ne sort que par la prière. La prière, vous savez, est une façon de témoigner, de montrer notre foi à notre Dieu. C'est une façon de montrer que on croit que par nous-mêmes, on ne peut rien faire et que c'est Dieu qui peut. Et le Seigneur la souligne encore, l'incrédulité des disciples, le fait de ne pas prier, le fait de ne pas se mettre à genoux et intercéder, ça témoigne aussi de notre incrédulité. Et Jacques, on peut lire ensemble ce passage de Jacques chapitre 5. À Alors, Jacques chapitre 5, versets 13 à 18, où Jacques souligne l'importance de la prière de la foi. Dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques souligne le fait que ce n'est pas l'onction d'huile qui sauve le malade, mais c'est la prière de la foi. Et la prière faite au nom du Seigneur Jésus, c'est ce qui apporte la délivrance. Et c'est, si c'est la volonté de Dieu que la personne soit sauvée, la personne sera sauvée, la personne sera délivrée. Alors, pourquoi les disciples ont échoué? Ils ont été impuissants par rapport à cela. C'est non seulement parce qu'ils ont manqué de foi, le manque de foi qui les empêche d'utiliser la puissance que le Seigneur a mis à leur disposition, au nom du Seigneur Jésus. C'est le manque de prière qui les empêche d'aller à la source de cette puissance, mais aussi le manque de discipline personnelle, c'est ce que le jeune peut souligner, qui les empêche de mettre les priorités là où elles doivent être. Manque de foi, manque de vie de prière qui témoigne justement de la foi et manque de discipline. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous caractérise, frères et sœurs? Et là, le Seigneur Jésus montre clairement sa déception. Le verset 41, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ?» L'incrédulité, frères et sœurs, c'est ce qui caractérise le non-croyant ou l'infidèle. Lorsqu'on prend les termes, c'est ce terme incrédule, c'est ce qui veut dire ce manque de foi. Eh bien, c'est le même terme qui est utilisé pour le non-croyant, mais aussi pour l'infidèle. Dire que lorsque nous manquons de foi, nous ressemblons à un non-croyant. Et nous sommes comme les non-croyants. Et il dit aussi « race incrédule et perverse ». Et en regardant ce terme-là, qui veut dire « tordre, déformer, détourner » ou « se détourner du droit chemin, pervertir, corrompre ». Et ce terme est utilisé, « perverse » là, lorsque, par exemple, l'apôtre Paul l'utilise lors de son premier voyage missionnaire dans Actes 13, et il avait ce monsieur Elimas, le magicien, et qui faisait opposition. Et il est dit, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Et cet homme était là, il voulait détourner de la foi le proconsul. Et c'est le même terme qui est utilisé pour perverse. Et en Actes 13, verset 10, l'apôtre Paul lui dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu pas point de pervertir ?» C'est le même terme. « Ne cesserais-tu pas de pervertir les voies du Seigneur, les voies droites du Seigneur ?» Et c'est là toute la pourquoi on peut comprendre que Jésus soit aussi sévère avec ses disciples. Race incrédule et perverse. Vous êtes mes disciples, vous dites être mes disciples, mais vous agissez comme des non-croyants. Vous dites être mes disciples, mais vous êtes en train de détourner de la foi celui, cet homme qui a amené vers vous cet enfant, croyant que vous aviez les capacités de le délivrer. Et le peu de foi qu'il avait, maintenant, il n'en a plus. Puisque là, Luc n'en parle pas, mais dans Marc donne pas mal de détails dans la discussion qu'il y a eu avec cet homme. Et on peut le prendre rapidement dans Marc chapitre 9. Alors, on peut reprendre, je vais lire à partir du verset 19. Donc, Marc 9, verset 19, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Vous voyez? Et donc, cet homme dit à Jésus, si tu peux. Il dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Donc, le Seigneur Jésus, il est vraiment sévère avec ses disciples, parce que ses disciples, par leur attitude, ils vont faire que cet homme va être tellement déçu qu'il dit, ben, si c'est comme ça, c'est pas la peine de croire. Et je me suis dit, mais Seigneur, tellement souvent nous sommes comme ça. Nous qui disons être les disciples de Jésus. Tant de fois, nous ressemblons à ces disciples qui sont là comme des obstacles à ce que des personnes puissent venir à toi. À cause de notre incrédulité, à cause de notre perversité, nous détournons de la foi des personnes qui pourraient venir, comme par exemple les enfants qui sont là, autour de nous, dans nos foyers. Nous voyons agir. Ils nous voient, ils nous disent, nous disons que nous sommes des chrétiens, et ils voient que nous agissons comme des inconvertis. Ils ne voient pas de différence. Ils voient comment nous parlons et puis ça les décourage et ils n'ont plus envie. Cet homme n'avait plus envie. Et il dit à Jésus, si tu peux. Parce que les disciples ont été incapables. Et donc, il dit, si tu peux. Nous sommes comme parfois ce figuier inutile qui est là dans le vigneron. Il a le maître à ce figuier et il attend. Ça fait 3 ans que ce figuier est là et ce figuier ne porte pas de fruits. Et il dit à son vigneron d'arracher ce figuier qui ne sert à rien. Dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Et ce vigneron dit, non, non, non. Je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier. Attends encore un peu. Et peut-être qu'il va apporter du fruit. Et Jésus, il est en train de reprendre ses disciples sévèrement parce qu'il dit, voilà, ça fait bien 3 ans que je suis là avec vous. Trois ans que vous voyez ce qui se passe, les miracles que j'opère, les choses que vous-même vous avez pu faire en mon nom. Et là encore, vous êtes là comme des enfants. Vous auriez, comme dit l'apôtre Paul, vous auriez dû être des maîtres, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais vous êtes encore au lait. Depuis tout ce temps, race incrédule et perverse. Oh, le Seigneur nous dit, arrêtez. Depuis combien de temps vous êtes là? Et ce qui est pire, c'est que vous êtes un obstacle à ce que cet enfant, celui que j'aime, puisse venir à moi. Celui qui veut être délivré, il ne peut pas, il n'est pas délivré, il ne peut pas, parce que vous êtes un obstacle à cela. Les disciples nous enseignent là encore, il y a des mauvais exemples, on apprend toujours, mais on les voit aussi, on peut apprendre d'eux aussi cela, c'est qu'après ils se sont retrouvés seuls avec le Seigneur Jésus. Et je m'identifie pleinement à eux. Et lui dire, mais Seigneur, mais pourquoi j'ai échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Et le Seigneur dit, voilà, parce que c'est à cause de ton incrédulité. Ça n'a pas marché parce que là, cette espèce-là sort qu'avec la prière et par le jeûne. Et donc, il m'interpelle, il me dit, mais toi, Tony, où est ta foi? Pourquoi tu n'as pas su? Pourquoi tu ne penses pas que je sois suffisamment puissant, tout puissant pour agir dans ta situation? Tu as un problème, et tu penses que c'est fini, il n'y a plus rien à faire, mais où est ta foi? Combien de temps tu prends, est-ce que tu pries par rapport à cette situation que tu vis là aujourd'hui? Le problème que tu as là, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne jeûnes pas pour cette situation? Elle est où ta foi? Et là, les disciples se retrouvent seuls, en particulier, le texte dit, avec le Seigneur Jésus. Seigneur, pourquoi j'ai échoué? Je pense que c'est cette question que nous devrions poser au Seigneur. Pourquoi n'ai-je pas pu, Seigneur? Et c'est pour ça que je dis que nous devons manifester la grandeur de Dieu. Parfois, nous donnons l'impression que nous servons un Dieu qui est petit, un Dieu qui est impuissant, un Dieu qui n'est pas capable. Et cet homme-là, qui est venu voir ses disciples, finalement, il les espérait que ses disciples allaient délivrer son fils. Mais finalement, avec l'échec, il s'est peut-être dit, mais ce Dieu-là n'est pas capable. Et le Seigneur, il est sévère avec ses disciples à cause de cela. Le Seigneur Jésus va faire les choses. Il va apporter la délivrance à cet enfant. Oui, si nous sommes faibles, mais Dieu, lui, il est puissant. Et le Seigneur nous dit que si nous avons la foi comme le grain de sénévé, nous pouvons dire à cette montagne, déplace-toi de là. Et chacun, frères et sœurs, peut avoir sa montagne ou son géant. Et qui peut dire, voilà, c'est trop grand pour moi. Cette situation, c'est impossible, il n'y a plus rien à faire. Et cette montagne qui est là, le Seigneur te dit, est-ce que si tu as un peu de foi, seulement un tout petit peu, je pourrais le faire. Le Seigneur ne demande pas d'avoir une grande foi. Si vous avez un peu de foi. Et ça peut être un membre de la famille malade, ça peut être un travail qu'on recherche, un enfant difficile, des problèmes dans le couple, des problèmes dans la famille, un péché, on est esclave de telle ou telle chose. Quelle que soit cette chose dans notre vie qui est là comme une montagne, le Seigneur dit que si tu as un peu de foi, alors tu pourras voir cette montagne se déplacer. Cet homme va pas se laisser décourager. En tout cas, c'est le Seigneur qui vient vers lui. Il dit, cet homme va venir et dire à Jésus son problème. Il va implorer la grâce de Dieu. Il va lui dire, voilà, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Et avant, il va dire à Dieu, il va dire au Seigneur, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Porte les regards. Et c'est là aussi ce que nous devons faire, frères et sœurs, nous qui sommes parents, mais en tant qu'être humain, tout simplement, lorsque nous voyons la souffrance de ceux qui sont là autour de nous, et lorsque nous voyons la souffrance de nos enfants, la souffrance d'une situation dans laquelle nous vivons, nous crions à Dieu, nous lui disons, Seigneur, porte le regard sur lui. Porte les regards sur elle, porte les regards, Seigneur, sur cette situation. Voilà ce qui se passe. Il va lui décrire, il va décrire au Seigneur la situation. Il dit, voilà, l'esprit entre en lui, il agite, etc. Oh Seigneur, porte les regards sur lui. Et parfois, vous savez, vous pouvez dire, oui, j'en ai parlé à un tel, mais il n'y a rien qui s'est passé. Mais Seigneur Dieu, je viens directement à toi. Parce que je crois que tu peux faire quelque chose. Et donc, cet homme, comme on l'a lu dans Marc, il va aussi confesser son incrédulité. Viens, viens à mon secours, Seigneur. Et je pense que si ce matin il y a un inconverti, quelqu'un qui n'a pas encore mis sa foi en Jésus et qui est peut-être découragé, déçu parfois des chrétiens, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour dire moi je ne vais pas à Dieu. Vous pouvez aller directement à Dieu. Vous pouvez aller à lui et dire oui, Seigneur, c'est à toi seul que je veux regarder. L'autre a échoué. Mon père, ma mère, ils ont échoué. Ou un frère, un tel chrétien, il a échoué. Mais je sais que c'est vers toi seul que je dois regarder. Puisque c'est devant toi que je vais me tenir et que j'aurai des comptes à rendre. Je ne veux pas dire que c'est la faute des autres. Et cet homme-là, il a reconnu son incrédulité. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est là la prière que chacun doit adresser à Dieu. Pour dire, oui, je suis un pécheur. Oui, je suis perdu. Mais toi, tu peux me délivrer. Et cet homme, malgré l'échec des disciples, cet homme a mis sa confiance en Jésus. Parce qu'il a fait cette rencontre avec lui. Il ne s'est pas laissé perturber, il ne s'est pas laissé décourager au point de dire, Seigneur Jésus, moi, c'est fini. Donc faites comme cet homme. Et quelle que soit votre situation, quel que soit votre mal, alors venez à Jésus aussi et mettez-vous à genoux à ses pieds et criez à lui. Et il va vous délivrer. Mais pour nous, chrétiens, pour nous qui sommes disciples de Jésus, voilà, examinons notre cœur. Est-ce que nous sommes un obstacle à manifester la grandeur de Dieu, ou est-ce que, bien au contraire, nous laissons Dieu agir en nous pour être ce canal qu'il veut utiliser pour manifester sa gloire. Et si nous voyons que, voilà, Race incrédule et perverse, le Seigneur me le dit. Alors je reviens à ses pieds, je le confesse, je demande pardon et je lui demande de me remplir de son esprit pour qu'il puisse se servir de moi, pour que je puisse être cet instrument qu'il veut pour la gloire de son nom. Donc que nous puissions manifester la gloire de notre Seigneur. Le texte nous dit que et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est que Dieu soit glorifié. Le Seigneur Jésus, c'était ce qui l'intéressait, la grandeur de Dieu. Est-ce que nous, c'est ce que nous recherchons? La grandeur de Dieu. Voilà. Et pour moi, c'est très important, frères et sœurs, que nos enfants qui nous voient grandir puissent dire, voilà, moi je vais m'attacher au Seigneur parce que j'ai pu voir la main de Dieu dans la vie de mes parents, j'ai pu voir la main de Dieu dans telle ou telle situation. Je ne veux pas qu'ils disent, moi, non. Et nous avons vraiment une responsabilité que ceux qui sont là autour de nous, et d'abord dans notre foyer, qu'ils voient la grandeur de Dieu dans nos vies, qu'ils voient que le Dieu que nous servons est un grand Dieu, et qu'ils mettent leur confiance aussi en lui. Amen.